Inspiration positive, Laurence Roux Fouillé. Je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence Protestante pour cette nouvelle édition d'Inspiration Positive. Vous le savez peut-être, nous abordons la troisième saison de notre émission et notre ambition cette année encore sera de vous distraire ou de vous étonner tout en vous aidant à aller mieux ou à transformer un peu votre vie, mais toujours de manière positive. Car Inspiration Positive, c'est l'émission qui vous veut du bien. Une émission qui respire le bien-être, le mieux vivre, mais qui traque aussi pour vous les nouvelles tendances, recense les expériences enthousiasmantes et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent votre quotidien ou votre environnement plus agréable. Aujourd'hui, il sera question d'intuition, une capacité souvent élevée au rang de don qui serait réservée à certains qui ont ainsi accès à des informations qui échappent à d'autres. Eh bien, nous verrons avec notre invité qu'il n'en est rien. L'intuition se travaille, elle peut même s'apprendre. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Estelle Blancouval. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Laurence.
Donc vous êtes co-auteur avec Alexis Champion de « Développer votre intuition », un ouvrage qui est paru donc en 2018 aux éditions Le Duc Pratique. Mais vous êtes également co-directrice d'Iris. Alors Iris, c'est étonnant, c'est une école dont les cours sont entièrement dédiés à l'intuition et à toutes les manières d'y accéder. Alors peut-être que, je ne sais pas, rien ne vous prédestinait au départ à devenir intuitive, ou peut-être faudrait-il dire intuitrice. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet, au sujet de l'intuition?
Je pense que j'ai toujours été intuitive, mais sans le savoir, sans vraiment le conscientiser. Et puis à un moment donné de ma vie, plutôt aux alentours de 40 ans, donc un grand tournant de mon existence, je me suis posé des questions un peu plus existentielles sur ma place sur cette belle planète, sur peut-être ma mission de vie. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'intuition, parce que je pensais vraiment que c'était un outil pertinent pour aller chercher en soi des réponses justes, authentiques. Et j'ai eu raison, parce que j'ai trouvé ma place maintenant, depuis quelques années maintenant, dans ce beau domaine qu'est l'intuition.
D'accord, donc qui est devenu votre domaine de professionnel. Vous travaillez sur l'intuition quasiment de façon quasi quotidienne.
Exactement, contre toute attente, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis comme juriste de formation, plutôt spécialisée en droit fiscal, droit des entreprises. Donc la vie est très surprenante. Et maintenant, j'en fais effectivement mon activité quotidienne, professionnelle. Et c'est même plus qu'une activité, c'est une passion, puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'exploration intuitive, c'est l'exploration de tous les outils qui nous permettent d'accéder à une connaissance autre que celle
Alors justement, dites-nous
oui.
un peu, donnez-nous donc, puisque vous me tendez la perche, oui. Comment est-ce qu'on peut définir l'intuition? Parce qu'il y a beaucoup, il va y avoir beaucoup de synonymes, on va parler de signes, on va parler de précognition,
oui,
enfin il y a tout un tas de choses et on voit bien qu'on est parfois à la limite de la pensée magique.
Exact.
Alors j'aimerais bien connaître votre définition de l'intuition.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots pour définir l'intuition, en fonction des croyances aussi, de nos croyances personnelles, de notre vécu. Après, pour mettre tout le monde d'accord, on peut juste regarder le dictionnaire contemporain ou les dictionnaires un peu plus anciens et on aura à peu près la même définition. L'intuition, c'est une connaissance immédiate de la vérité, un savoir vrai qui ne repose pas sur le raisonnement, qui ne repose sur aucune expérience en amont. Et c'est une information qui a cette particularité d'être immédiate, fulgurante, donc qui ne repose sur rien. J'aime bien dire que l'intuition voyage sans véhicule, contrairement au raisonnement qui, lui, a besoin d'avoir des informations en amont pour pouvoir travailler et produire une autre information. L'intuition, elle, c'est juste une perception, c'est une information spontanée et hors raisonnement. Voilà. Et cette définition, elle est super importante parce qu'elle donne énormément de clés pour pouvoir justement travailler son intuition et comprendre. comprendre comment fonctionne son intuition.
Alors, dans un pays cartésien comme le nôtre, ça doit être compliqué de parler de l'intuition, puisqu'en fait, on est beaucoup, justement, vous en parliez, basé sur le raisonnement, la logique, l'argumentation, les liens de cause à effet. Or, vous semblez nous dire, alors l'émission s'appelle « Inspiration », que justement, cette intuition, elle tombe du ciel.
Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire parce qu'elle est tellement, pour beaucoup de personnes, inattendue. On la considère souvent comme un phénomène spontané, non maîtrisé. Mais on s'aperçoit qu'on peut convoquer notre intuition comme un outil, en fait, dont on aurait besoin et qu'on va aller chercher avec une méthodologie particulière. Donc, c'est pas juste un phénomène involontaire, non maîtrisé. Il faut savoir qu'on peut effectivement travailler, convoquer à l'envi, l'utiliser, jouer avec. Donc, il faut absolument démystifier l'intuition comme quelque chose d'extraordinaire et de magique.
Alors, justement, on voit que pour démystifier certains de ces phénomènes, hein, parfois les neurosciences vont essayer de creuser et d'essayer de démontrer et de prouver en disant non, finalement tout ça se démontre. Or, précisément, vous faites une différence entre l'intuition et ce que vous appelez le raisonnement inconscient.
Oui, alors je sais qu'en neurosciences, on va plutôt parler de raisonnement inconscient pour définir l'intuition. Et quand on parle de raisonnement inconscient dans ce contexte-là, c'est plus, on parle plus de l'intuition de l'expert. C'est-à-dire que on considère que quand quelqu'un a un cumul d'heures, 10 000 heures à peu près, en général, on considère qu'un expert, c'est une personne qui a accumulé à peu près environ 10 000 heures dans un domaine bien spécifique, bien précis.
Donc de connaissances.
De connaissances dans n'importe quel domaine, que ce soit scientifique, dans les ressources humaines, artistiques, on appelle ça, les neurosciences appellent ça l'intuition de l'expert. C'est parce que les personnes, ces experts-là, ont tellement l'habitude, tellement travaillé de manière spécifique et pointue, de manière subtile, leur connaissance, que leur raisonnement est très très rapide. C'est un raisonnement inconscient, fulgurant, rapide, et qui amène à dire... j'ai eu une intuition, mais derrière, de manière non conscientisée, il y a tout un travail d'analyse, tout un travail de déduction, d'argumentation, mais qui est super rapide, parce que la personne est experte, parce qu'elle a l'habitude de ressentir, d'analyser toutes les données en un temps très, 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 très concis.
Donc ça serait plutôt de l'hyperconnexion neuronale, on va dire, sur la base d'une base de données, justement, hyper étoffée.
Bon, alors après, je ne suis pas neuroscientifique, donc je m'abstiendrai d'aller plus loin, mais... on est typiquement dans le raisonnement inconscient. Et donc, si on reprend en fait la définition de l'intuition qui, elle, est hors raisonnement, hors expérience, on n'est pas dans la définition de l'intuition telle qu'elle est donnée et telle qu'on la propose.
Alors, précisément, si elle ne repose pas sur le raisonnement, est-ce qu'elle met en œuvre davantage peut-être les sens ?
Complètement. Merci de poser la question. Oui, l'intuition déjà passe par les sens, mais avant même de passer par les sens, passe par le corps. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est de l'ordre du pressentiment. Oui. Le pressentiment, c'est le corps qui détecte à l'avance une situation.
Donc c'est une petite sensation corporelle parfois, un picotement, un sursaut, quelque chose de cet ordre-là.
Alors c'est des manifestations physiologiques qui sont différentes selon les individus. Et ça peut être des petits signaux très subtils, donc il faut absolument être assez conscient de soi-même et de ce qui se passe en soi, ça on pourra en reparler après. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus, ce qu'on appelle des macro-signaux, des macro-manifestations, comme les tripes qui se nouent, d'où l'expression de gut feeling. Mmh. Ça peut être le cœur qui bat un peu plus, ça peut être des frissons dans le corps. Donc il y a énormément de manifestations physiologiques. Et c'est le corps qui manifeste, qui détecte à l'avance et qui va donner une réponse à une situation particulière ou alerter selon une situation que l'on vit. Voilà.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on sait tous finalement quels sont nos signaux qui se mettent en route ou pas forcément.
Ça aussi, je pense que c'est vraiment un apprentissage d'apprendre à se connaître, à conscientiser ce qui se passe, le vécu, ce qui se passe en nous, dans notre ressenti intérieur, dans nos ressentis extérieurs. Donc, il y a tout un travail d'attention sur soi et ensuite de décodage. Parce que je peux très bien avoir le cœur qui bat, mais c'est aussi normal d'avoir le cœur qui bat. C'est aussi normal de frissonner quand on a froid. Donc là, on est aussi dans un travail d'apprentissage, d'analyse fine de ce qui se passe en nous par rapport à une situation. Il faut absolument apprendre apprendre à se connaître et rentrer à l'intérieur de soi. On dit que l'intuition, c'est une démarche d'intériorité, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de soi, regarder attentivement à l'intérieur de soi pour aller chercher une information autre, extérieure à soi.
Donc à laquelle on n'a pas forcément accès au départ ?
Non, c'est une information complètement non conventionnelle qui est non accessible avec nos sens directement.
D'accord. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut tous être intuitifs ?
On est tous intuitifs. On ne peut pas être tous intuitifs. Enfin, c'est pas une possibilité, c'est une capacité, en fait. Donc, on est tous intuitifs. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler cette intuition. L'intuition, c'est une capacité universelle avant même d'être une compétence. Donc, tout le monde a l'intuition. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des études scientifiques qui montrent que l'intuition se manifeste en permanence en nous via notre corps, donc, dont on parlait avec ces signaux physiologiques. Seulement, après, il y a toute une écoute intérieure à avoir pour détecter, décoder, remarquer et suivre ensuite ces signes physiologiques.
Alors, moi, j'aimerais savoir quel intérêt ça peut avoir, par exemple, au quotidien, d'intuiter hein, dans des situations quotidiennes, que ça soit, je sais pas, au travail, dans la vie personnelle. Comment elle peut me servir, d'abord, cette intuition ?
L'intuition, elle peut vous servir dans tout type de problématiques, tout type de contexte. Quand vous avez un choix à faire, quand vous avez à prendre une décision, que ce soit entre par exemple, vous évoquiez la situation, une situation professionnelle, vous avez un recrutement à faire et vous avez deux candidats dont les profils sont équivalents en termes de diplôme, en termes de personnalité. On sait que dans ce type de situation d'incertitude, le raisonnement flanche. Il ne peut pas trancher puisque les informations sont équivalentes. Donc le raisonnement ne peut pas travailler sur ce type de questionnement. Par contre, là, ça donne un levier, ça ouvre la porte à l'intuition, au ressenti intuitif pour prendre la décision et trancher pour pouvoir avancer. On a aussi l'intuition qu'on appelle créative. Là, c'est l'intuition qui va travailler à plein sur des questions d'innovation. C'est le meilleur outil pour créer puisqu'elle va créer du neuf, absolument neuf, vu qu'elle ne s'appuie sur rien, sur aucune information en amont. C'est elle qui va proposer quelque chose d'incroyablement créatif, d'incroyablement nouveau dans l'absolu. Alors que le raisonnement, quand il crée, puisqu'il s'appuie sur de l'expérience en amont, il va pouvoir créer de la nouveauté, mais il y aura toujours quelque chose un peu de connu dans cette création. D'autres types de problématiques.
Ce qui veut dire, par exemple, quand on rencontre quelqu'un la première fois, que ce soit au travail ou dans n'importe quel autre contexte, hein, y compris personnel, amical, peu importe, cette première impression, cette espèce de sensation qu'on a, hein, qui peut suffire à un regard ou vraiment une parole, c'est souvent la bonne.
Et là, je pense qu'il faut nuancer par rapport à cette première impression. Il peut y avoir, bien entendu, des ingrédients, des informations intuitives, mais prudence, il y a aussi, je pense, des a priori qu'on peut avoir sur des personnes, des comparaisons que l'on fait de manière très inconsciente sur telle personne parce qu'elle nous fait penser à
Exactement,
une autre rencontre.
Oui.
Donc c'est vraiment, là, je serais vraiment prudente par rapport à cette première impression. On peut avoir de l'intuition, mais elle va être aussi noyée ou en tout cas colorée par des a priori ou de l'expérience qu'on a en amont. Donc prudence.
Dans le même ordre d'idées, parfois on est tenté de décoder des signes. Hein, et quand il y a des choses dans notre quotidien, on se dit « tiens, c'est un signe, donc il y a un espèce de message pour moi ». Ça, c'est quelque chose qui vous parle ou vous dites « non, ça, l'intuition, c'est pas ça ». Ça vient de l'intérieur.
Vous évoquiez un peu la pensée magique. Donc, attention à ne pas tout décoder comme étant des signes, parce que là, on peut se perdre dans ces chemins où on peut voir des signes partout. Mais on a effectivement tout ce que l'on peut appeler la synchronicité. C'est-à-dire, l'insynchronicité, c'est ces fameuses coïncidences complètement acausales qu'on ne peut pas expliquer.
Donc, deux événements qui sont séparés, qui a priori n'ont pas de lien, mais quand on les rapproche,
de cause à effet,
voilà, ça donne du sens.
Mais qui ont un sens,
voilà,
pour la personne. Donc là, on est plus que dans le signe, on est vraiment dans une coïncidence signifiante qui est impactante pour la personne qui la vit parce qu'en général, elle est dans un tournant ou une demande, un questionnement très important, essentiel pour elle. Et ça déclenche ces fameuses coïncidences signifiantes, ces événements tout à fait surprenants qui vont avoir du sens pour elle, mais pas pour d'autres, et qui vont éclairer un aspect de sa vie ou un tournant ou quelque chose, une décision à prendre.
Bien, alors avant de rentrer dans des exemples peut-être encore plus concrets sur l'apprentissage aussi de l'intuition, puisque nous sommes tous intuitifs, on va faire une parenthèse en musique bien sûr.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Si vous ne connaissiez pas encore ce titre de Stromae qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est Santé, un nouveau titre après des années d'absence, mais surtout qui rend hommage à tous ces héros du quotidien qui font des petites choses, notamment je pense pendant toute la période de la crise sanitaire, des gens qui ont été absolument indispensables, que ce soit voilà, les aides-soignantes, les gens qui ramassent nos poubelles ou qui livrent les choses dont on a besoin. Voilà, c'était le dernier, le nouveau titre, pas le dernier, on va espérer, en tout cas c'est le nouveau titre de Stromae. Aujourd'hui, en tout cas, dans Inspiration Positive, on parle intuition avec Marie-Estelle Blancouval, qui est notre invitée. Non seulement elle est co-auteure avec Alexis Champion d'un ouvrage qui s'appelle « Développer votre intuition », et c'est sans doute aussi là-dessus qu'on va orienter la deuxième partie de notre émission, mais elle est co-directrice d'une école, Iris, l'école de l'intuition, donc l'intuition peut s'apprendre parce qu'elle sert à plein de choses. Et moi, j'aimerais bien, Marie-Estelle, que vous nous donniez un exemple, par exemple, d'entreprise ou d'organisme avec lesquels vous avez travaillé chez Iris. Et je pense notamment au remote viewing. Alors, un terme anglo-saxon, mais vous allez nous traduire, hein, de fait de voir ou de sentir les choses un peu à distance. Alors, à distance dans l'espace ou dans le temps. Et nous donner, par exemple, un exemple avec l'archéologie. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec des archéologues?
Oui, alors pour revenir juste sur le remote viewing, hein, c'est un protocole que l'on déroule pour accéder à l'information intuitive et qui se déroule dans des étapes successives et qui permettent d'aller apporter de l'information, d'aller chercher de l'information sur une situation, sur une personne, sur un événement ou sur un objet. Et la particularité du remote viewing, c'est d'être en aveugle. C'est-à-dire que les intuitifs qui vont ramener des informations ne connaissent pas le sujet sur lequel ils intuitent. Ça, c'est d'accord. Très important pour éviter que le raisonnement, justement, ne s'immisce. puisse et qu'il y ait des biais. Et donc, c'est cette méthode-là que l'on enseigne dans l'école et que l'on utilise aussi avec nos équipes d'intuitifs pour répondre à des problématiques diverses et variées en termes d'innovation pour des entreprises, de créativité, de choix, de prise de décision et de manière plus spécifique dans l'archéologie. On appelle ça l'archéologie intuitive pour aller rechercher des informations sur un artefact archéologique.
Donc un objet qu'on a découvert.
Un objet qu'on a découvert et pour lequel on manque d'informations, soit dans sa fonction, soit dans son usage, dans la période à laquelle il a été produit, construit, ou comment il a été façonné, ou d'où vient-il, quelle est son histoire. Donc il y a toutes ces problématiques peuvent être posées par les archéologues en fonction de l'artefact, de leur demande, mais ça peut être aussi de la localisation de sites archéologiques. Donc là, on est plus dans l'intuition du corps pour localiser, détecter des zones intéressantes à explorer. Donc l'intuition, là, va très loin dans la recherche et dans l'exploration de l'information.
D'accord, elle peut guider. Alors, précisément, si j'ai envie de développer mon intuition, si je me dis finalement, peut-être que j'ai cette capacité et que ça peut me servir dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous allez me conseiller de faire? Comment ça se passe? Il y a des étapes. Dans votre livre, vous décrivez des étapes. Vous proposez même des expériences, y compris des choses qu'on peut faire en famille. Alors, donnez-nous quelques exemples et de la manière dont ça peut se développer, justement.
Alors, on a très peu de temps pour en parler. Bon, il y a une école et il y a le livre, effectivement. Mais je pense que la première des choses, déjà, c'est de croire en son intuition. Ça, c'est ouvrir la porte à son intuition et de se dire que vous avez de l'intuition comme toute autre personne. Ça, c'est un essentiel. Ensuite, la deuxième clé, c'est de poser l'intention, de développer son intuition, mais plus que ça, de développer l'usage de son intuition, parce que comme on a tous de l'intuition et qu'elle s'exprime en permanence, on est plus dans l'usage, l'intention d'utiliser son intuition.
Alors, est-ce que c'est par exemple l'idée de quoi j'ai besoin d'être conscient ou de comment je veux m'éclairer sur tel ou tel sujet, par exemple?
Oui, l'idée, c'est déjà de conscientiser tout ce qui se passe en nous pour faire le tri, et c'est ça aussi, c'est la particularité de la méthode, c'est de conscientiser tout ce qui se passe en nous à chaque instant pour faire le tri entre ce qui est de l'intuition et ce qui n'en est pas. Donc, on apprend à poser un nom sur tel type d'information. Ah bah tiens, ça c'est ce que j'ai vécu, c'est juste un ressenti physique, une gêne physique. Tiens,
d'accord,
mais ça ce que j'ai vécu,
différence.
C'est une émotion.
D'accord.
Ok, c'est une émotion, c'est peut-être pas forcément de l'intuition. Ah là, en fait, c'est pas de l'intuition, c'est juste mon intellect qui m'a donné cette construction mentale. Ok, je mets de côté. Mais ça nécessite tout un apprentissage déjà de savoir ce que l'on vit, quelle est la nature de ce que l'on vit, de conscientiser ce que l'on vit, d'identifier ce que l'on vit pour faire ensuite la part des choses, trier le bon grain de l'ivraie, je vais dire, pour retenir juste l'essence même de l'intuition.
D'accord.
Donc c'est tout un travail d'apprentissage. J'aime bien dire que c'est une sorte d'art martial mental.
Alors après, donc il faut s'exercer.
Ah oui.
Il y a une discipline.
Oui.
On peut adopter une discipline.
Comme tout art martial
d'accord.
mental,
oui.
C'est une discipline, c'est un entraînement régulier. Ça ne sort pas du chapeau, l'intuition. Ça se développe comme n'importe quelle discipline sportive où il faut effectivement s'y tenir, s'entraîner régulièrement. Et puis ensuite, ce qu'on propose, effectivement, c'est cette méthode qui se propose, qui se déroule étape par étape, parce qu'on sait que ça fonctionne mieux comme ça, que c'est beaucoup plus efficace de la dérouler dans cet ordre-là chronologique pour pouvoir ensuite utiliser son intuition à bon escient et quand on en a besoin.
Ouais. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits éléments de ces étapes par lesquelles on peut passer?
Alors, ces étapes, déjà, c'est de se rendre disponible à l'intérieur de soi-même, ouais. Quand on a envie de convoquer son intuition, il faut absolument être au calme, se mettre au calme, se poser, gérer toutes ces attentes, toutes ces résistances, toutes ces
les
envies,
jugements.
Les jugements, les mettre de côté et revenir à un état neutre intérieurement.
Presque méditatif.
Et de calme mental.
Oui,
presque méditatif. Alors après, il y a
d'accord.
plein d'outils. Il y a la méditation pour revenir à cet état mental de calme intérieur pour pouvoir écouter son intuition, parce qu'elle est relativement discrète. Une fois que vous avez fait ce petit sas de préparation, ben, c'est de poser l'intention de conscientiser tout ce qui se passe en soi et de commencer par poser son regard à l'intérieur de son corps, puisque l'intuition s'exprime d'abord par le corps. Donc, quand on a une question à poser à son intuition, on écoute son corps.
Donc, on émet une question, ce
oui,
que vous dites.
Toujours.
Oui, il faut émettre.
Ah, oui.
Alors, des questions, j'imagine, ouvertes
toujours.
Ou fermées?
Ah, alors
bonne
là,
question.
Ça dépend de la situation.
D'accord.
Bonne question. Si c'est pour des questions plutôt fermées, on va faire appel à l'intuition du corps, puisqu'elle est tout à fait utile pour répondre à des
donc
questions
ça, c'est
binaires.
Sur oui,
oui, non,
non
je
d'accord.
décide, je décide
très
pas,
bien.
Je prends, je prends pas. Hop, j'écoute ce que m'en dit mon corps, mais ça veut dire qu'il faut absolument reconnaître, connaître son signal, sa réponse positive et comment elle se manifeste dans son corps.
Oui.
Et si par contre on veut répondre à des problématiques plus conséquentes, plus ouvertes, où on veut de l'information, du détail, là on sera plus dans le déroulement de cette méthode où on va mettre en avant nos cinq sens pour aller chercher des informations sensorielles d'abord, parce que l'intuition passe par cette étape-là sensorielle, aller chercher des informations sensorielles brutes pour ensuite reconstituer le puzzle et cumuler des informations, des détails et des informations pour pouvoir ensuite les exploiter, puisque c'est ça qu'on veut, exploiter notre intuition.
Donc dans ce que vous dites, c'est qu'à un moment, il y a quand même une re-rationalisation de ces informations-là.
Oui. En fait, on ne peut pas juste être intuitif, on a besoin de notre intellect. Oui. On est vraiment dans une situation où on a besoin à la fois de faire travailler notre intellect et notre intuition de manière harmonieuse et chacun sa place. L'intellect, lui, va poser les questions et l'intuition va répondre. L'intellect va trier les informations. Tiens, ça c'est de l'intuition, ça c'est de l'émotion, ça c'est de l'opinion. L'intellect va être occupé à questionner, à trier les informations et non pas à déduire ou à interpréter. Ça, c'est important. Ça. Donc, il faut l'occuper intelligemment pour que l'intuition ait cette petite chance de passer à travers tous ces filtres-là que l'intellect pose, ces pièges que l'on connaît au travers des déductions, des projections, des interprétations.
J'ai le souvenir, il y a quelques années, vous aviez organisé la journée de l'intuition et on a été un certain nombre à faire cette expérience qui prouve que tout le monde peut le faire avec une photo qui était dans une enveloppe, donc on ne connaissait pas le lieu dont il s'agissait. On nous avait donc guidé par Alexis Champion, on nous avait simplement demandé de d'écrire des adjectifs qui concernaient des couleurs, des sensations, des matériaux. Donc Alexis Champion avait guidé effectivement un certain nombre de questions et je me souviens d'avoir écrit, je crois, une quarantaine d'adjectifs avec des sensations, de la pierre, du métal, enfin différentes choses qui franchement me venaient à l'esprit. Et j'étais d'ailleurs avec une amie, on était je pense quelques dizaines à avoir fait en même temps cette technique. Et dès que Alexis Champion ajoutait, dès qu'il y a quelque chose qui est arrivé, si vous avez une idée précise, mettez-la de côté. Pour revenir justement uniquement à ses ressentis. Et à la fin, quand il nous a montré la photo, alors qu'il de mémoire, ça devait être le MUCEN, le musée d'art de Marseille, et bien je sais que sur les 40 adjectifs que j'avais écrits, il y en avait au moins 30, si ce n'est 35, qui correspondaient en fait à cet endroit. Alors après, j'imagine qu'il y a bien d'autres techniques pour l'orchestrer, mais j'avais trouvé ça assez impressionnant parce que c'est là où on se rend compte que oui, potentiellement, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est plus facile pour les enfants ?
C'est plus facile pour les enfants parce qu'ils ont moins de... Déjà, pour eux, c'est un jeu. Donc, ils se mettent moins la pression que des adultes.
D'ailleurs, dans votre livre, vous donnez un exemple de jeu que vous avez fait avec vos enfants.
Oui.
Avec vos propres enfants.
Alors, si c'est l'exemple auquel je pense, c'est de décrire leur futur lieu de vacances.
C'est ça, exactement. Oui.
Et ça m'a donné une belle idée. Donc, je les ai monitorés, questionnés comme vous l'aviez été pour la journée de l'intuition, en utilisant uniquement leurs cinq sens. Décrivez-moi les couleurs, les odeurs du lieu. Mais je n'avais pas précisé de lieu de vacances pour pas leur donner de biais. Et donc, les odeurs, les textures, l'ambiance. Et à la fin, quand on a suffisamment d'informations sensorielles, donc des adjectifs descripteurs, on peut reconstituer le puzzle et avoir une idée du lieu. Donc, ça m'avait donné l'idée d'un lieu de ces fameuses cabanes dans les arbres parce qu'ils avaient perçu de la hauteur, du bois, quelque chose d'arboré, de végétal, dans lequel on grimpait, on descendait. Et au fur et à mesure de reconstituer toutes ces petites pièces de puzzle, ben, on a un lieu de cabane dans les arbres. J'ai contacté un site qui proposait ce type de vacances. Et quand les enfants sont arrivés sur le site et que je leur ai remémoré cette session intuitive qu'ils avaient fait, ils sont tombés à la renverse et ils ont fait waouh! Et on a passé des très bonnes vacances.
Alors, lieu de vacances,
ça correspondait à leur lieu de vacances.
Et ce que vous dites, c'est qu'avec les entreprises, vous le faites aussi pour certains produits, pour savoir justement quels sont les produits qui vont finalement plaire aux acheteurs, enfin au public, aux consommateurs potentiels, en essayant un peu, alors à l'avance, de définir un certain nombre d'éléments, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. On peut être amené à décrire des articles, des produits selon la demande du client et on va dérouler le même protocole. Donc, on va décrire un article, un objet de manière sensorielle, physique, pour donner une idée au client, un cahier de descripteurs de à quoi ressemble ce futur produit, ce futur article.
Marie-Estelle, en tout cas, on vous retrouvera avec plaisir et notamment sur le site d'Iris qu'on mettra bien évidemment et sur le blog et sur notre page Facebook. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la faire réécouter à vos amis mais aussi à l'écouter sur les principales plateformes de podcast. Je remercie rapidement Arnaud qui était à la technique. On se retrouve le 23 novembre et il sera question d'autosuffisance. Tout un programme. D'ici là, passez une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.